Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais de pouvoir te servir, Seigneur. C'est tellement un privilège, Seigneur, de te connaître, Seigneur, et de pouvoir, Seigneur, avancer, grandir, Seigneur, dans notre foi, Seigneur, grandir dans notre connaissance de ta parole, mais aussi, Seigneur, grandir dans ton service, Seigneur, et avec, Seigneur, la communauté, la communion fraternelle, Seigneur, qu'on vit ensemble dans cette église, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que Saint-Esprit, tu puisses prendre toute la place ce matin, et qu'on puisse le vivre, Seigneur, le ressentir, Seigneur, pour que ton royaume, Seigneur, puisse vraiment s'installer toujours plus dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen!
Yes! Je m'appelle Bastien, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et juste avant Carolina, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la femme de Jefferson, voilà, qui vient de nous rejoindre. Elle vient de Colombie, se sont mariés récemment et ils sont tout contents d'être là. Donc allez leur faire des bisous, leur dire bonjour. Si vous parlez un petit peu d'espagnol, c'est le moment. Et yes, on est trop contents de t'avoir avec nous, Carolina. Deux valeurs importantes pour 2019 dans l'Église, est-ce que vous les connaissez? Deux thèmes, l'adoration et la communion fraternelle. Deux valeurs qui vont être chères dans le cœur, ou en tout cas qui vont se développer, se décliner sous différentes formes au travers de cette année 2019. On l'a vécu dans la semaine de jeûne. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la semaine de jeûne? Qui a été béni pendant la semaine de jeûne à ECP? On a fait tous les soirs, on priait ensemble, et c'était le moment de justement prier sur ces deux thèmes, l'adoration et la communion fraternelle. On était vraiment contents de faire ça. Le problème, c'est qu'avec Jean Arnoldi, on s'est dit que comparé à vous, on n'était spirituellement pas à la hauteur. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on fasse une deuxième semaine de jeûne. Donc on est partis tous les deux à la Porte Ouverte de Mulhouse. Je ne sais pas si vous connaissez une église là-bas. D'où vient Rachel? Et on est partis recommencer une semaine de jeûne pour aller encore rechercher Dieu et pour que Dieu nous parle sur différentes choses. Avant qu'on continue, je voulais vous faire une petite salutation de ma femme qui est en Afrique, qui est au Sénégal en ce moment et qui travaille auprès d'enfants et d'élèves sourds et malentendants au Sénégal pour pouvoir leur apprendre aussi les valeurs de Dieu et qu'ils puissent grandir dans un univers où on les aime, où on les choye, on les chouchoute et on leur apprend quelque chose pour pouvoir s'insérer dans la vie active. Pourquoi ? Parce que l'handicap est un peu vu comme une malédiction au Sénégal, et donc du coup ils sont très victimes de rejet, et Rachel et plein de gens font un super travail pour pouvoir leur montrer qu'ils ont de la valeur et que Dieu les aime. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce matin on va se faire des amis? Et s'il y a et s'il y a personne à côté de toi, c'est vraiment le moment de te faire des amis. J'ai une question à vous poser. On va revenir sur la diapo d'avant. Si vous deviez résumer la Bible en un seul mot, ce serait quoi pour vous? L'amour, l'amitié, la joie, un mot, hein, le soutien, la paix, la justice, la foi, la vérité, le pardon. Ok, on pourrait tous les faire. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Moi, le mot qui pour moi, alors c'est le mien, hein, bien sûr, qui définit ou qui résume la Bible, c'est relation. Je crois qu'il y a beaucoup d'histoires de relations dans la Bible. Si on regarde la première, c'est la relation entre Dieu et les hommes. On en a parlé au travers du témoignage de Nadine dans les chants, que Dieu s'est fait chair et est venu dans la peau de Jésus-Christ pour pouvoir porter notre péché, nous réconcilier avec Dieu le Père et revenir dans sa gloire qui est parfaite. Si vous avez des questions par rapport à ça et que vous ne connaissez pas, vous pouvez venir me voir à la fin. Je vous ferai un grand plaisir pour vous expliquer ce que Jésus est venu faire sur terre. Mais il y a une autre forme de relation dans la Bible. Il y a la relation entre les frères et les sœurs, entre les hommes, entre les humains. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Comment construire des relations, des amitiés solides? Ça vous parle? Ça vous intéresse? On va se faire des amis ce matin? Je suis content en fait d'être passé par la semaine de jeûne. Je suis aussi content que ce soit arrêté. Hein. Deux semaines à jeûner, c'est cool. J'ai perdu 5-6 kilos. Ça, j'étais vraiment cool. Ça m'a bien motivé à tenir. Mais on a été vraiment bénis par plein de prédications, alors c'est quand même intense. Mais il y a un thème qui est revenu sur les relations. Et quand mon père m'appelle le mardi pour me dire « Bastien, il n'y a personne qui peut prêcher dimanche. Est-ce que tu peux prêcher ?» J'étais vraiment content d'être à la semaine de jeûne. J'ai pu leur glaner quelques petites infos. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une prédication peut s'inspirer de celle des autres? Ouais. Si jamais tu disais non, ça fait 2000 ans qu'on copie et redit la Bible. Donc t'inquiète pas, il y a possibilité de s'inspirer des autres. Pourquoi est-ce que ce sujet me tient à cœur ? Des amitiés solides. Je vois de plus en plus de chrétiens isolés dans leurs problèmes. Je vois l'Église, avec un grand E, mais parfois ECP aussi, où on vient sous ses meilleurs attraits. Et on oublie de prendre soin des problèmes des autres. On vient au culte, on vit quelques petits moments de causette, et on repart, et on a construit sur 10 minutes le dimanche, en termes de communion fraternelle. Je ne sais pas si tu savais, mais 10% des pasteurs américains ne finissent pas leur mandat. Il n'y a que 10% des pasteurs américains qui finissent leur mandat de pasteur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'amis. On peut facilement en fait reproduire un schéma de société où le pasteur est la personne la plus haute et donc du coup elle ne doit pas montrer ses faiblesses parce que quand même c'est le chef spirituel de l'Église. Sauf que ça, on le fait tous. On le fait tous parce que dans notre travail, on n'a pas le droit de se montrer faible. Et quand je dis faible, c'est parce qu'on croit que se montrer vulnérable, c'est être faible. Vous savez la raison pour laquelle les gens viennent à l'Église mais la quittent aussi ? Pourquoi ? Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, donc ils viennent à l'Église, mais ils la quittent assez rapidement parce qu'ils n'y trouvent pas d'amis. C'est triste, hein ? On dit qu'en moyenne, une personne qui vient à l'Église pour la première fois, 8 semaines après, elle n'est plus là. Elle quitte, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas trouvé d'amitié et de relation. Et moi, j'aimerais, en fait, je suis trop content en fait, que le ECP soit dans cette dimension de communion fraternelle, parce que ça serait dommage d'être une Église fragile en termes de relation. Vous êtes d'accord avec moi ? J'aimerais bien que moi, que les amitiés, mes amitiés personnellement, mais les amitiés dans l'Église, ça corresponde un petit peu à ça. Qu'on soit des personnes authentiques, vulnérables, enseignables et redevables. Authentiques dans le sens d'être vrai. On a le droit, en fait, de passer par des problèmes. On a le droit de trouver un soutien dans l'Église. Vulnérables dans le sens que c'est OK de parler des choses qui ne vont pas. Enseignable dans le sens de « j'ai envie que l'autre m'aide à progresser ». Redevable dans le sens que « je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin qu'on se donne des objectifs, j'ai besoin qu'on avance ensemble, et pour ça, j'ai besoin de te dire ce qui se passe dans ma vie pour qu'on puisse progresser ». Je ne sais pas si vous vivez ce genre d'amitié, mais moi pendant longtemps, je me suis inscrit à des salles de sport, et Bruno sait ça très bien, parce que je lui ai beaucoup parlé de ça. Je me suis inscrit dans des salles de sport et j'ai fini par payer des années et des années sans y aller. C'est déjà arrivé à quelqu'un, ça ? Vous avez le droit d'être vulnérable, les amis. Hein ? un peu plus profond, là, maintenant. Pendant longtemps, je me suis battu seul et je suis tombé face à plein de vices de la sexualité. Pourquoi ? Parce que je trouvais personne pour m'aider et m'encourager, pour me montrer comment en sortir. Encore plus, j'ai galérer dans ma relation avec Dieu, dans ma sanctification, parce que j'avais personne à côté de moi pour me challenger, pour me dire, Bastien, là, Bastien. Pourquoi ? Parce que souvent, j'étais en position de responsabilité dans l'Église et que du coup, le schéma reprend de la société et on n'a pas le droit de reprendre, on n'a pas le droit de conseiller. Attention dans l'amour, hein, je parle. Hein. J'ai galéré à lire ma Bible de façon régulière, parfois et souvent me sentant coupable d'être pas un si bon chrétien. Parce que j'avais du mal de trouver des personnes, et puis j'avais du mal d'en parler aussi. De dire, j'ai besoin d'aide là. Et dans plein d'autres domaines. Et là, tu peux rajouter tes domaines à toi. Alors, ça ne veut pas dire que j'avais pas de potes, ça ne veut pas dire que j'avais pas d'amis, ça ne veut pas dire que j'avais personne à qui je faisais la vie, mais c'était des personnes qui, comme je disais avant, on se voit un peu le dimanche après le culte, on rigole, on fait des fêtes, on vient à la maison, on passe des bons moments. Mais dès qu'on commence à vouloir approcher le domaine un peu plus profond de comment tu vas dans ta vie, moi, je mettais une barrière. Il y en a beaucoup, j'ai déjà expliqué mon témoignage là-dessus, mais pendant longtemps, je ne voulais pas d'amis parce que je ne voulais pas qu'ils sachent la partie difficile qui était en moi. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que j'allais être faible. Ça va, Nanette ? Je ne vais pas trop vite. Nanette, vous pouvez l'applaudir, elle est en train de traduire en espagnol pour Carolina. J'avais désespérément besoin de cet ami intime qui allait pouvoir en fait m'aider, me challenger, me faire progresser, me faire avancer, me rapprocher de Dieu et ensemble, on allait pouvoir servir le royaume de Dieu. Ça fait envie ou pas ce genre d'amitié ? Et alors, j'ai pu développer ce genre d'amitié et notamment avec Jean. Si vous ne connaissez pas Jean Arnoldi, vous le laissez, c'est mon ami. Mais avec Jean, ça a commencé, c'est qu'on servait ensemble. Voilà. On servait à l'église ensemble, on était dans la louange, qui faisait le son, on rigolait bien, on s'entendait bien, mais il n'y avait pas plus d'intimité entre nous. Et un coup, on s'est dit, bah, tiens, et si on apprenait un peu plus à se connaître? Donc on s'est invité. On allait manger chez lui, il m'a fait une soupe au potiron, potimarron. Bon, voilà. On apprend à se connaître au fur et à mesure. On a bien rigolé, on a commencé à parler de différents sujets, et là, plus en plus, on se rendait compte que les sujets pouvaient être de plus en plus profonds. On est devenus amis. Et de plus en plus, on a commencé à s'édifier, se faire du bien, et on s'est dit, oh là, en fait, la personne, elle me fait progresser, elle me fait avancer. Et on est devenus meilleurs amis. Et aujourd'hui, on vit des super temps d'amitié où on peut être vrai l'un envers l'autre. On n'a pas peur de se reprendre l'un envers l'autre parce qu'on sait que c'est par amour. On sait que c'est pour le faire progresser. Et c'est comme ça que tous les deux, on est allés à cette aventure de semaine de jeûne ensemble. C'est un peu fou de prendre une semaine de congé pour ne rien bouffer, mais ça arrive. Je vais boire un petit coup et tu peux dire à la personne à côté de toi, ce matin, on va vraiment se faire des amis. Ouais, l'amitié, c'est pas que le jeûne, hein, vous inquiétez pas. Moi, mon rêve ce matin pour toi, c'est que si t'as pas ce genre d'amitié-là, à côté de toi, si t'as pas une personne qui vit cette authenticité, vulnérabilité, qui te montre ce côté enseignable et puis redevable, si t'es pas un ami comme ça pour quelqu'un, mon rêve pour toi, c'est que tu trouves ce meilleur ami. Tu trouves ce meilleur ami. Et si tu peux même le trouver dans ECP, ça serait vraiment top. Pourquoi il y a une réelle différence entre un meilleur ami non chrétien et un meilleur ami chrétien? Et moi, je ne suis pas contre les meilleures amitiés chrétiens, non chrétiens. J'ai des super amis non chrétiens et je veux les garder. Pourquoi? Parce que je sais que la différence de l'évangile en moi peut les amener à vivre quelque chose d'autre. Et j'ai besoin de la relation parce que ça reste un enfant de Dieu en devenir. Et du coup, de ce côté-là, il y a beaucoup de choses que je peux apprendre de lui. Mais un meilleur ami chrétien est basé sur des valeurs morales qui sont tellement profondes. L'amour, l'encouragement, la redevabilité, le côté de se remettre en question. Tout ça, les non-chrétiens l'ont aussi, mais le côté de se dire, on n'y arrive pas, viens, on va prier. Tu combats par rapport à ça, tu luttes par rapport à ça, viens, on plie les genoux et on prie. Ce genre de choses-là qui te ramènent vers Dieu, en fait, quand ton ami te ramène vers Dieu et quand Jean me reprend sur des trucs et t'es là, ah, ok, allez, il a raison de faire ça. Et je vais revenir vers Dieu et je vais chercher ça. La Bible, elle dit dans Ecclésiaste, « Deux valent mieux parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. » Pourquoi ? Sans avoir un second pour le relever. Malheur à celui qui tombe et qui n'a pas de personne à côté de lui pour le relever. Et la réalité, les amis, c'est que l'Église, on a déjà parlé de ça, c'est un petit peu comme un hôpital où les gens sont là et Dieu prend soin d'eux et on est là pour les accompagner à prendre soin d'eux. On est là pour les accompagner, on est censé être là. La réalité, c'est que, là je vais parler d'une description qui se passe aussi dans l'Église, pas forcément ECP, mais dans l'Église en général, c'est que dans l'Église, il y a du mensonge. Dans l'Église, il y a de l'adultère. Je ne parle pas forcément d'ECP. Dans l'Église, il y a des combats face à la pornographie. Dans l'Église, il y a des personnes qui ont du mal avec la kleptomanie, avec le vol. Dans l'Église, il y a des adultères. Je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais. La colère, l'homosexualité rentre dans l'Église. Les arnaques, l'impudicité, la jalousie, la haine. Et on pourrait faire une liste énorme de choses. Là, je ne suis pas en train de parler des non-chrétiens. Je suis en train de parler dans l'Église. Comment est-ce que si tu vis ça, et que le dimanche matin, tu dois te mettre sous tes vrais attraits, super beau, super bien, tu combats ces problèmes. La Bible, elle dit « Malheur à celui qui est seul et qui tombe ». Pendant des années, moi, je suis tombé face à la pornographie. J'avais personne pour m'aider. J'avais personne, pourquoi ? Parce que je n'osais pas en parler. Et à un moment, je me suis dit « Ok, si le Seigneur parle de liberté en Christ, si le Seigneur parle de l'importance de l'autre, alors j'ai envie d'apprendre de l'expérience des autres. » Aujourd'hui, je suis libéré de la pornographie. Mais parce que je me suis fait aider. Parce que j'ai dit aux personnes ce que j'avais, ce que je souffrais et que je ne pouvais pas et que je n'arrivais pas pour moi-même. Mais on ne parle pas que des choses sexuelles, la jalousie, la haine, je ne sais pas, le mensonge. Il y a plein de choses dans la vie où parfois on n'y arrive pas tout seul. Moi, j'ai pris cette résolution fin décembre 2018 de me dire, OK, j'y arrive pas tout seul, alors je vais remplir les domaines dans lesquels je n'arrive pas tout seul avec quelqu'un. Je n'arrive toujours pas tout seul à faire du sport, donc j'ai pris un coach. J'ai toujours un petit peu galéré à lire ma Bible, donc avec Jean, on s'est lancé dans cette aventure de lire la Bible ensemble. J'avais du mal dans ma relation avec Dieu, donc avec Jean, on s'est lancé dans cette idée de comment on parle de Dieu, qu'on méditait la parole, prie ensemble. Essayez de regarder, faites la liste des domaines dans lesquels vous combattez seul et vous tombez. Et faites-vous aider, parce que malheur à celui qui est seul et qui tombe. Et je crois que c'est incroyable dans la Bible parce qu'on parle énormément d'amitié. Il y a plein d'histoires dans la Bible qui parlent de relations et d'amitié. Jésus avait des amis ? Oui et non ? Les disciples, Lazare, Marie, Marthe, Marie-Madeleine. Paul avait des disciples, avait des amis. David et Jonathan, c'est une superbe histoire d'amitié dans la Bible. David et Jonathan qui sont sous le même toit et qui ne sont pas du tout frères et sœurs, mais qui vont vivre cette relation d'amitié que David va même décrire comme étant au-dessus des liens du sang. Il dit, j'ai le cœur, donc c'est David qui parle au moment où il doit fuir devant Saül. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi et ton amitié était merveille plus grande que l'amour des femmes. Pardon, c'était pas plus que les liens de sang, mais l'amour des femmes. Il y a aussi un autre verset dans Proverbe qui dit « Il y a des relations qui tournent mal, mais il y a l'ami plus attaché qu'un frère. » On se rend compte ici justement que la Bible parle de l'amitié comme étant plus forte que les liens de sang et de l'amour des femmes. Il y a un réel pouvoir dans l'amitié que beaucoup ne vivent pas, justement par peur d'aller se montrer vrai devant les autres. Moi, je crois qu'au même titre que le mariage illustre la réalité spirituelle entre Jésus, l'époux, et l'Église qui est l'épouse, j'ai l'impression en tout cas que l'amitié illustre la réalité spirituelle de l'enfant de Dieu que je suis, ma relation entre l'enfant de Dieu que je suis et le Saint-Esprit. Je répète, le mariage illustre la réalité spirituelle entre le mariage de Jésus, l'époux, et l'Église qui est l'épouse. L'amitié traduit la relation spirituelle, la réalité spirituelle de la relation entre l'enfant de Dieu et le Saint-Esprit. Pourquoi je pense ça ? Si je regarde un petit peu, on pourrait décrire des attributs du Saint-Esprit de manière énorme, mais j'en ai pris quelques-uns. Les attributs du Saint-Esprit, c'est qu'il veut nous conduire dans l'amour et l'obéissance de Christ. Il nous communique et il nous enseigne les vérités spirituelles. Je vous ai mis les références si jamais vous prenez des notes. Il nous communique des choses précises pour des situations particulières. On continue ? Il nous pousse à l'action. À un moment, quelque chose, il nous dit par rapport à quelque chose où il va hâter quelque chose en nous. Il nous pousse à l'action. Vas-y, Bastien. Vas-y, parle de Dieu là à cette personne. Ou vas-y, va demander pardon. Il nous avertit d'un danger et il nous relève si on chute. Il empêche certains plans pour nous conseiller des meilleurs. Il nous défend face aux attaques du diable. Quand je regarde ça, il nous conduit, je vais revenir. Il nous conduit, il nous communique des choses précises. Il nous pousse à l'action, il nous avertit, il nous relève, il nous conseille, il nous défend. Moi, je vois la description d'un ami. Est-ce que vous voyez ça, vous aussi ? Quelqu'un qui va être là à chaque fois et dire « Ella, viens, je t'aide. Ella, t'es sûr de ce choix ? Pourquoi t'as fait ce choix-là ? T'es tombé, c'est pas grave, viens, on s'encourage. » La description d'un ami par la réalité, la relation entre toi et le Saint-Esprit. Alors, la Bible, elle parle de plein de choses, mais j'ai sélectionné qu'un autre verset. C'est Jean 15, 13 à 15, qui est assez connu pour l'amitié, où Jésus va dire « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Vous connaissez ce verset ? Alors on va le décortiquer. Il n'y a pas de plus grand amour. Un ami, c'est quelqu'un qui aime. La base, la racine du mot ami, c'est amour, on est d'accord ? Première question. Est-ce que tu aimes tes amis, tes proches, la façon où Jésus définit l'amour ? On va un petit peu se chauffer ce matin, on va se remettre en question, mais ce n'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous faire, pour qu'on progresse ensemble. Ces questions, je me les pose à moi-même et je me dis, ah, dans ma réalité avec Jean ou avec les autres amis que j'ai, est-ce que j'aime de la façon que Jésus me demande d'aimer ? Donc un ami, c'est quelqu'un qui aime. Un ami, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour ceux qu'il aime. Alors on peut le prendre au sens littéral, mais je l'espère pas pour toi. On peut aussi le prendre au sens figuré, qui est un petit peu, je suis prêt à tout faire pour mon ami. C'est-à-dire, je suis prêt à le servir. Je suis prêt à être là pour lui. Je suis prêt à prendre du temps pour lui. Sauf que la réalité, parfois, dans notre société, et parfois dans notre vie aussi en tant que chrétien, c'est qu'on aime bien de loin. Plus ça se rapproche, plus on évite. Plus ça se rapproche et plus ça nous embête. On est d'accord ou pas ? C'est un peu vrai quand même, hein ? La question que j'ai envie de te faire réfléchir, c'est quelles sont les choses dans tes amitiés que tu n'es pas prêt à faire pour tes amis ? Alors bien sûr, en respectant toujours les principes de Jésus, mais quelles sont les choses que tu n'arrives pas ou que tu n'es pas prêt à donner à ton ami par amour pour lui, sur lesquelles Dieu peut-être peut essayer de te faire travailler ? C'est des choses que tu pourras réfléchir plus tard, hein. Mais si on aime de loin, c'est dommage. Moi, je vis maintenant une super amitié avec Jean, avec David, avec d'autres personnes, Simon, qui était dans cette église aussi. Et c'est des moments où tu te dis, mais à un moment, tu es obligé de te rapprocher. Tu es obligé de faire face à face avec la personne. Allez, on continue. C'est quelqu'un qui applique ce que Jésus commande. Donc, c'est quelqu'un qui applique les enseignements de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il veut grandir dans sa relation avec Dieu pour pouvoir bénir les autres aussi. On est d'accord avec ça ou pas ? Alors, moi, j'ai envie de grandir dans mes enseignements avec Dieu, j'ai envie de grandir dans les principes de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'être un ami fidèle pour Jean. J'ai envie d'être un ami qui est vrai pour Jean. J'ai envie d'être un ami qui le fait progresser. J'ai envie d'être un ami qui est là pour lui quand il a besoin. J'ai envie d'être un ami qui prie avec lui. Je prends l'exemple de Jean, hein, mais je pourrais prendre l'exemple d'autres personnes. Et la dernière chose, c'est quelqu'un qui fait connaître ce qu'il a appris du Père. Donc, il y a le côté « je grandis spirituellement, mais j'ai envie de faire avancer quelqu'un ». Et là, parfois, c'est là où ça bloque, dans les églises. C'est qu'on grandit dans notre foi, mais on oublie de la transmettre. On grandit dans nos expériences avec Dieu, mais on oublie de le transmettre. Et c'est génial d'avoir cette disposition de refaire revenir le témoignage dans l'église, parce que là, on verra ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens. Il y a un truc dans la Bible, c'est que Jésus, il ne cherche pas à faire grandir la foi d'une personne, pour elle seulement. Dieu, il ne cherche pas des hommes qui grandissent dans leur foi personnelle, pour eux. Dieu veut que tu grandisses dans ta foi personnelle pour que tu puisses édifier une autre personne, pour que tu qu'il puisse édifier une autre personne, pour qu'il puisse édifier une autre personne. Et là, le corps de Christ deviendra fort. Qui est d'accord avec ça ? Moi, je te pose cette question maintenant. Comment tu le vis, ça ? Comment tu le vis, cette transmission ? Comment es-tu le fait aujourd'hui ? Parce que le faire aiguise le faire. Ça, c'est le Proverbe 27-17. On a besoin des autres pour grandir. Bon, désolé, hein, je suis dans un petit sujet qui parfois fait un peu mal. Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est parce que mon amour, il est tellement grand pour l'amitié. Ce que je vis aujourd'hui est tellement fort. Ça me relève, ça m'empêche de tomber. Ça me fait vivre des choses juste incroyables avec Dieu auxquelles je passais avant à côté et maintenant que je ne veux plus passer à côté. Et quand je vois ça et que je vis ça, je me dis, moi aussi, j'ai appris ça du Père. J'ai appris cette amitié que Dieu me permet d'avoir avec le Saint-Esprit et j'ai envie que tu le vives. Cette amitié-là, on va voir maintenant les dangers, mais d'après vous, quels sont les dangers de ne pas avoir des amis solides ? Alors quand je dis amis solides, je ne dis pas juste amis, hein. Je ne dis pas juste connaissance, pote. Ce serait quoi les dangers de ne pas avoir un ami solide ? Allez-y. Moi, j'aime bien quand les gens participent. Ce serait quoi les dangers ? Allez-y, parlez fort, hein. S'isoler, ok. Donc de plus avoir de relations, c'est ça que tu veux dire ? Dépression. Pardon ? Faire ce qu'on veut. Plus devoir rendre de compte, ouais. Tomber. Vas-y, Ghislaine. On croit toujours avoir raison, super. L'orgueil. Quoi d'autre ? Ne pas être sincère, ne pas avoir de personne en face qui nous montre un petit peu qui on est, pas se remettre en question. Vous les savez ou pas ces choses-là? Vous en êtes conscient? Alors et si maintenant on rentrait dans ce côté de j'ai envie de vivre cette amitié? J'ai relevé 3 domaines, bien sûr il y en a d'autres. Se retrouver seul face au péché et du coup souvent tomber. Limiter la communion fraternelle à des bonjours, comment ça va et rien de très profond, rien de très vrai. Et perdre de vue que la relation c'est là le plan de Dieu. Toute la Bible est une relation entre Dieu, l'homme, entre l'homme et l'homme. L'homme et la femme, bien sûr. Et nous, on veut s'isoler. On veut garder ce qui est privé pour soi. Et on passe juste à côté du plan de Dieu. Qu'en est-il de ta réalité? Est-ce que tu es ce genre d'ami pour quelqu'un? Est-ce que tu as ces amis autour de toi ou cet ami? Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000, hein. Moi, j'en ai 3 comme ça, ouais, qui je suis vraiment profond. Et 4 avec ma femme, bien sûr. Ma femme, ça reste ma meilleure amie. C'est elle qui me connaît le plus. Et tout ce que je dis là, je parle de relations entre frères et sœurs, mais bien sûr, tu peux le vivre et ça serait cool que tu le vives dans ton couple. Ça serait cool que tu le vives avec tes enfants. On a vu les dangers. On les connaît, on se pose la question, ok, c'est quoi, où est-ce que j'en suis? Maintenant, il y a des causes à ne pas vivre cette amitié. Je vais y aller un peu plus vite là-dessus. Une des causes principales de ne pas avoir ses amis, c'est parce qu'on n'est pas forcément bien entouré. Je ne vais pas vous les mettre parce que vous allez suivre le diapo et pas m'écouter. Une des causes principales, c'est de ne pas s'entourer des bonnes personnes. On avait cette image à l'APO quand le pasteur prêchait, cet exemple qui était trop intéressant, j'ai oublié de la mettre. C'est qu'un aigle ne sera jamais un aigle s'il traîne qu'avec des dindons. Ça nous fait rire, mais ça transcrit une vraie réalité. Un dindon, ça vole pas. Si un aigle veut prendre son envol et qu'il traîne qu'avec des dindons, il va jamais essayer de voler. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on traîne avec des personnes qui ne croient pas en nous, qui ne nous encouragent pas, qui ne nous défient pas, qui ne nous reprennent pas. Et on reste dans notre petit confort, on est bien. Quand je parle de ça, je ne parle pas que de non-chrétiens, hein. Je parle de chrétiens aussi. Hein. Ne pas bien s'entourer des bonnes personnes, c'est perdre l'occasion ou l'opportunité de te rapprocher toujours plus de ta destinée. Pourquoi? Parce que l'autre, le faire aiguise le faire, donc l'autre t'entraîne dans la mission que Dieu veut pour toi. Et la réalité, c'est que ta destinée, elle est tellement grande que tu ne peux pas l'atteindre seul. La preuve, Jésus est venu sur terre. Il aurait pu partir et dire « c'est bon, j'ai accompli ma mission ». Non, il a formé 12 personnes. Ces 12 personnes ont formé plein d'autres personnes. Et le monde entier, une grosse partie du monde a été évangélisé. C'est l'œuvre d'une personne qui a compris l'intérêt du groupe pour pouvoir se répandre en groupe. Et vous pensez que pendant les 3 ans, Jésus, ils ont parlé que d'ouvrir leur Bible et étudier la Bible? Combien de fois Jésus les reprend? Combien de fois Jésus les conseille? Combien de fois Jésus les réconforte? Il y a un autre verset qui est intéressant, mais je vais juste l'introduire avant. C'est que si tu veux vivre une relation d'amitié profonde avec Dieu et avec les autres, pardon, entoure-toi des personnes, encore une fois, je le redis parce que c'est tellement important, qui croient en toi. Moi, j'ai vécu cette bénédiction d'avoir un gars comme David Bonhomme qui était dans mon entourage. Et le mec, quand il m'a vu, il a cru en moi, alors sur des choses que je ne croyais pas. Aujourd'hui, quand je lui parle, il croit toujours en moi sur des choses que j'aime pas. Sur des choses que je ne pense pas pouvoir faire. Mais il est aussi cet ami qui me dit « Bastien, là, t'abuses. Pourquoi? Pourquoi t'as pas fait ça? Ça fait combien de fois que je te conseille de le faire? Pourquoi tu l'as pas fait? Ça fait mal. Mais je m'entoure des bonnes personnes parce que je sais que ce mec, il me fait faire des bons en avant. Et je suis prêt à me dire que Seigneur, il a mis une perle en moi, un potentiel en moi, des plans parfaits en moi qui ne peuvent pas être lésinés et diminués par le fait juste de m'isoler. Un verset qui est dur dans la Bible, mais qui est pourtant vrai. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, devant les porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. La réalité, c'est que parfois, ton potentiel, il est tellement grand où parfois il est intéressant, mais il correspond pas à la vie de l'autre. Et la personne, en fait, elle se dit, bah, ouais, c'est cool, mais elle n'en fait rien de plus. Elle va fouler ce potentiel à terre. Sauf qu'il y a des personnes qui ne font pas juste le fouler, mais qui l'écrasent et qui derrière te déchirent et disent, mais non, c'est n'importe quoi, ça. Entoure-toi de personnes loyales, fidèles, pleines de vision, de foi, qui croient en toi, plein d'encouragement pour te faire entrer, encore une fois, dans ta... Vous êtes encore avec moi ? Non ? Une deuxième cause de ne pas avoir d'amitié, c'est la peur de souffrir. On a peut-être été blessé dans le passé, relationnellement parlant. On a peut-être souffert parce qu'une personne nous a rejetés. On a tout donné, on s'est donné à fond pour la personne et la personne n'a pas fait égard à tout ça et du coup, on ne veut plus souffrir. Je comprends. Je comprends. Et c'est vrai que l'amitié, elle implique une part de souffrance. Pourquoi ? Parce que tu fais face à l'imperfection humaine de l'autre. L'autre a aussi besoin de changer, de s'aiguiser. L'autre a aussi besoin de grandir. Mais la souffrance, elle n'est pas uniquement dans la bouche de l'autre. Elle est aussi dans la réalité de la vérité de la parole. Parfois, la vérité, elle fait mal. Je vous l'ai dit, David, il m'a dit des choses dernièrement, c'est il y a 2 semaines, et j'avais mal au fond de moi, j'étais là, je n'aime pas ce que tu me dis, mais tu as tellement raison. Et du coup, est-ce que je suis prêt à l'entendre ? La réalité, c'est que l'amitié, elle se base toujours sur l'amour. On a vu, hein, c'est le point 1, un ami qui aime. Grandir face à la souffrance passe aussi par l'amour. Je me sens aimé, je me sens aidé, je me sens encouragé, donc j'accepte que la personne, en fait, vienne me reprendre. Pourquoi ? Parce que si je suis dans cet état d'esprit de « on est là pour s'aider, pour grandir », l'autre a une attitude envers moi qui est pleine d'amour. Et moi, j'ai tellement envie que dans cette église, quand on reprend des personnes, ce soit plein d'amour. Et moi, je confesse, je ne le fais pas toujours. Je ne le fais vraiment pas toujours et j'ai besoin de grandir là-dessus. Mais j'aimerais tellement que... au lieu de se dire « je vais rien dire parce que je ne sais pas trop le dire », on puisse dire « Seigneur, donne-moi l'amour pour dire les choses. Parce que je sais que je peux faire grandir mon frère. » Sinon, on va être dans du religieusement correct, politiquement correct à l'église, on va être encore sur nos bons attraits et on va juste quitter l'église et dire « bon, bah, j'ai pris ma petite parole, j'ai grandi, je vais en faire ce que je veux cette semaine. » Puis on ne va rien vivre de plus. Une autre cause, c'est le malaise relationnel. On n'a pas tous grandi dans des conditions où on a vécu relationnellement quelqu'un avec des personnes qui nous ont aidés à parler, aidés à dialoguer, aidés à se pardonner, aidés à montrer de l'affection. Ça, c'est vrai. On est dans une société qui souffre au niveau des relations. Vous savez qu'une des plus grandes causes, une des plus grandes souffrances maintenant dans la société occidentale, c'est la solitude. Les gens souffrent de relations. Mais dans l'église aussi. Les gens souffrent de relations. Et je peux comprendre qu'on se sente démuni face à ce malaise. On se dit, mais comment je vais lui parler ? Est-ce que c'est intéressant ce que je vais dire ? Ouais, mais tu sais quoi ? C'est possible. Et ça fonctionne. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est des choses que moi aussi j'ai vécues à certains degrés. J'ai grandi dans un foyer où on apprenait à parler, où on apprenait à se pardonner. Mais il y a quand même certains sujets qui étaient compliqués à discuter. Et sur certains sujets, ben, je manquais aussi, moi, de pouvoir parler. Et du coup, ben, le truc, c'est que quand tu manques et quand tu as un manque dans ta vie au niveau relationnel, affectif ou autre, là, ce n'était pas mon cas, mais tu vas retransmettre ça. Et l'amitié, en fait, t'aide à vivre ce côté où relationnellement, tu peux grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça fonctionne. Et là, une autre cause, c'est la honte. C'était la principale raison pour laquelle je ne voulais pas d'amis. Je ne voulais pas qu'ils voient les faces cachées dans ma vie. Je ne voulais pas qu'ils voient toutes mes erreurs, mes mauvais choix, là où je suis tombé, les choses, les iniquités, les choses que je refais toujours, toujours et toujours encore. Le problème de cet obstacle dans ma vie, mais dans la vie de tellement de personnes, c'est qu'on n'est pas fort dans notre identité en Christ. L'identité qui dit que quand tu es enfant de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui se travaille à vie. Mais comme je suis fort aujourd'hui de me dire « mais Jésus ne me condamne pas, je peux aller vers Jean, je peux aller vers Bruno, je peux aller vers David, je peux aller vers des personnes et de leur dire « ah, je suis encore tombé là-dedans. Oh, ah, j'arrive pas à parler vraiment bien. Ou, ah, j'aimerais tellement pouvoir pardonner plus vite. » Et on prie ensemble. Parce que je sais que l'autre me regarde avec amour et ce qu'il veut, c'est que je progresse dans mon attitude de stature parfaite de Christ. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Si Jésus connaît mes pires erreurs, me pardonne, mais en plus ne me condamne pas, alors moi je suis qui pour condamner la personne en face de moi? Et je suis qui pour être condamné par quelqu'un? Si tu te laisses condamner par une personne, c'est tu ne t'acceptes pas en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand Jésus dit non, il n'y a plus de condamnation, et que tu es condamné par une personne. Alors, il y a une différence entre condamnation et reprendre la personne, on est d'accord? Quand on reprend, c'est pour faire progresser, quand on condamne, c'est pour écraser. Quand je me laisse condamner par une personne, quand je me laisse écraser par une personne, Nadine le parlait avant dans son témoignage, quand on se laisse écraser par quelque chose, il y a une faiblesse dans notre identité en Christ. Parce que je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier avec Christ. Tu as le droit de me reprendre, mais tu n'as pas le droit de me condamner. C'est vrai ou pas? Une autre réalité, c'est de ne pas vouloir rendre des comptes. Ghislaine disait, on aime bien avoir raison. Enfin, si on reste seul, on pense qu'on a raison. D'autres personnes qui disaient, on fait ce qu'on veut et on croit qu'on est bien. Sauf que la réalité de la Bible, ça n'a jamais été de travailler seul. Jamais. Jésus, il a envoyé les disciples par combien? Par deux. Ne pas vouloir rendre des comptes, c'est de ne pas vouloir prendre ce principe de Dieu qui est réel. Quand il dit à la fin du jugement dernier, on rendra tous des comptes devant Dieu, c'est que c'est un principe de Dieu de rendre des comptes. Mais rendre des comptes, encore une fois, ce n'est pas pour nous condamner. Rendre des comptes en disant, mais je t'avais confié cette mission. T'en es où? La parabole des talents, c'est une parabole qui parle de justement rendre des comptes. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? J'ai l'impression que je vous endors là. Je redescends. Dieu nous demande de rendre des comptes à la fin et pourtant on n'aime pas rendre des comptes aux autres. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie toujours à « Ah, j'ai encore chuté, il ne faut pas qu'ils connaissent ça ». Sauf que la réalité, c'est que si tu crois ne pas être vu, Dieu te voit H24. Dieu te voit H24. Et il y a un gros problème, et moi j'en prends conscience aujourd'hui, et on en parlait avec Pamela la dernière fois, c'est qu'on n'a pas forcément conscience de la présence de Dieu dans notre environnement. On ne croit pas que Dieu est forcément là, et quand on se retrouve tout seul, eh ben, on s'autorise des choses, mais Dieu est là aussi. Et Dieu peut nous demander de rendre des comptes à ce moment-là, si on est attentif. Rendre des comptes, ce n'est pas fait pour te condamner, c'est fait pour te faire progresser. Et moi, je suis content d'être avec Jean. Par exemple, on s'est lancé dans un plan de lecture sur un an. Donc, on a 4 chapitres par jour à lire. On essaye d'en parler, de prier ensemble dessus. On a encore des difficultés à mettre ça en route dans le sens parler. Mais lire 4 chapitres par jour et méditer dessus, c'est long, hein, quand même. En tout cas, pour moi, c'est long. Et il y a des fois, j'oublie des jours. Je me dis, ah, c'est bon, Jean, il va pas le voir, de toute façon. Et après, alors, t'en es où dans ton plan de lecture? Ah, je l'ai pas fait aujourd'hui. Et ce plan de lecture, on s'est donné comme condition de si en fait on est en retard, enfin si la fin de semaine on n'a pas réussi à la finir, on recommence la semaine. Bon, aujourd'hui on ne l'a pas encore fait parce qu'on a tellement la pression de l'autre qu'on se dit allez, je vais finir mon truc, je vais faire mes 4 chapitres. Mais c'est une bonne pression. Je suis redevable envers lui face à ce plan de lecture. Il a le droit de me dire eh bah si, on a pris cet engagement. Je sais que Claudia elle fait la même chose avec Lionel et d'autres amis. C'est une super façon de lire ta Bible. Une autre cause, c'est le diable. Alors, je l'ai mis en dernier parce qu'il n'y a pas que le diable qui empêche les amitiés. Hein. Mais le diable, il n'aime pas l'amour. Donc, le diable, il n'aime pas ce qui est amitié. Dieu va le mequin, on l'a lu, pour se relever, pour avancer, mais toujours une fois, pour avancer dans notre destinée. Et le diable, il veut stopper ça. Donc, c'est pour ça qu'il met des tensions dans les relations. C'est pour ça qu'il met des tensions parfois dans l'église aussi, qui ne sont pas forcément boostées par le côté de « j'ai envie de te faire avancer ». Jean 13, 1, on va pas le lire le verset. Jean 13, 7, on va juste lire cette partie-là où c'est quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Vous connaissez cette histoire? Donc en gros, Jésus voilà, est le maître et il prend ses disciples et commence à les laver les pieds, qui représente quand même quelque chose d'assez sale. Et Pierre objecte ça et il dit non, tu ne me laveras pas les pieds, sous prétexte que Jésus, tu ne peux pas, toi, mon maître, te rabaisser à moi et toucher ce qui est sale. Je suis tellement content qu'il y ait des infirmiers et des aides-soignantes sur Terre, parce que je n'ai pas à le faire. Où ils touchent ce côté un peu crado, sale des gens, qu'ils le font avec tellement d'amour. Parce qu'ils ont choisi ce métier aussi. Tellement beau. Bravo Clémentine, bravo tous ceux qui sont des infirmiers et aides-soignants. Jésus dit quoi à Pierre? Il dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et il lui répondit quoi ? « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » La réalité, c'est que Jésus lui dit, « Si tu veux avoir un lien avec moi dans ta destinée, il va falloir que je sois ton partenaire. » Et comme Jésus nous demande de répliquer son exemple, il nous demande d'avoir des partenaires pour participer à l'œuvre de Christ. Allez, je vais vite, parce qu'il faut avancer. Comment se lancer dans une amitié solide ? Je vais rentrer un petit peu dans du concret. La première chose pour moi, c'est une démarche intentionnelle. C'est s'intéresser à l'autre. Jésus dit qu'on est une créature merveilleuse, qu'on est des trésors. À un moment, est-ce que tu vois la personne à côté de toi comme un trésor ? Si tu avais un trésor, une malle devant toi, à mon avis, tu ne la laisserais pas fermer longtemps. Vous êtes d'accord ou pas ? On peut ouvrir cette malle qui est la personne, le trésor à côté de nous et lui dire « Eh mais t'es qui ? Comment Dieu il t'a fait toi ? Et c'est quoi tes aspirations ? C'est quoi tes désirs ?» On a commencé ça, et vous le savez, avec Rachel, au niveau de nos voisins, où on a décidé en fait de connaître notre quartier. On s'est dit « Ces voisins-là, c'est des enfants de Dieu en devenir, et si c'est des enfants de Dieu en devenir, c'est des trésors. Et ces trésors-là, j'ai le droit de les connaître. Et je veux les connaître. » Puis à force de discuter, on commence à rentrer dans les sujets un peu plus profonds. Et puis il nous invite en petit comité restreint. Et puis il nous invite en comité encore plus restreint. Et là, dernièrement, on a lancé le concept café entre voisins. Parce que apéro voisin, on était plutôt 10-15 personnes, donc c'est cool, on a des super conversations, mais c'est pas hyper intime et pas hyper profond. Chacun est un petit peu dans le politiquement correct. Et après, on se fait inviter en petit comité, on est 5-6. On mange une petite raclette, c'est déjà un peu plus cool. On est assis, on peut parler un peu plus profond, on est face à face. Puis après, on lance le café voisin, et là, on est 2-3. Et là, la seule chose qui m'intéresse, c'est toi. Et j'ai envie de te découvrir. Des choses tellement simples, démarche intentionnelle. La deuxième chose, c'est prier. Prier, pourquoi ? Parce que tu es dans ce voyage où tu veux connaître la personne, mais tu es aussi dans un voyage où tu améliores ta sanctification, ton imperfection, et tu as besoin de Dieu. Rachel, pendant des années, ma femme, elle a prié pour trouver des personnes qui lui correspondent, des amis qui lui correspondent. Pas dans le sens des amis avec qui elle va pouvoir juste être confortable, mais des amis avec qui elle pourrait s'entendre bien et que l'autre personne pourrait la faire progresser. Elle a prié pendant des années, mais elle les a trouvées. Donc comment se lancer dans une amitié ? Tu peux prier. Ensuite, la réalité, c'est que c'est un chantier de construction. C'est des fondations à l'entretien. Une amitié, si tu poses des fondations, tu t'intéresses, tu invites les gens, tu commences petit à petit à apprendre à les connaître, puis après tu vas commencer à bâtir le premier niveau, tu vas connaître un peu plus, ça va solidifier, tu vas rentrer dans des sujets un peu plus profonds. Yes. Et ensuite tu vas monter encore le deuxième niveau et ça sera de plus en plus profond. Yes, c'est cool. Répit, ça marche ? Yes. Tu vas monter plein de niveaux comme ça, à plus tu vas rentrer dans l'intimité, plus tu vas rentrer dans quelque chose de profond, plus ça va grandir en construction. Et un jour, tu as le toit, ça se ferme, tu continues à grandir, mais tu as aussi la phase d'entretien. Comment est-ce que tu entretiens tes amitiés ? Rachel, elle a lancé un petit concept, ça fait les moments friends, où en fait, ils sont des amis de longue date, qui sont un peu éparpillés en France maintenant, se sont mariés, Rachel est venue à Strasbourg et différents trucs. Et chaque mois, ils posent une date et ils disent « Non, on veut intentionnellement se retrouver ». Parce qu'on a envie de savoir comment tu vas. Et la dernière chose que je voulais dire, et après on va juste prendre un rapide temps de prière, c'est qu'avec Jean, en fait, on s'est lancé, à fur et à mesure de grandir notre amitié, on a lancé en fait ce qu'on appelle un groupe de croissance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept. Groupe de croissance, ça se base sur ce livre, une Bible du café des disciples. On ne l'a pas à la bibliothèque, on pourrait se le procurer, mais vous pouvez vous procurer en ligne, à la CLC. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, je vais prendre un temps intentionnel où on va se poser des questions de redevabilité. Comment Dieu t'a parlé ? Qu'est-ce qui t'a parlé dans la Bible ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue péché dans ta semaine ? On confesse nos péchés. On prie ensemble. Et vu qu'on est super proches, on fait la vie ensemble. Ouais, les musiciens, c'est cool. En tout cas, Ézéchiel. On fait la vie ensemble. Ça vous donne envie ou pas ce genre d'amitié ? Où tu sais que tu peux trouver un frère ou une sœur d'armes dans l'église peut-être, où tu ne vas pas juste servir dans l'église, où tu ne vas pas juste la voir 10 minutes après le culte, mais tu vas lire la Bible avec, tu vas prier avec, tu vas grandir dans ta foi avec, tu vas grandir dans tes manques, dans tes problèmes émotionnels, psychologiques, et tu vas avoir un soutien parce qu'à chaque fois que tu tombes, tu as quelqu'un qui est là et qui dit « Eh Bastien, t'en es où face à cet engagement ?» Et avec Jean, on a chuté sur certains trucs. Mais à chaque fois, on était là. Et viens, on recommence. Parce qu'on n'est pas là pour se juger. Et viens, on recommence. Je juste garde ça. Alors, si tu as des questions sur le groupe de croissance et tout ça, on pourra parler à la fin. L'idée, c'est pas que ce soit moi qui développe ce groupe avec tout le monde, mais que tu puisses trouver ce groupe de croissance. Peut-être dans l'église, il y a un pasteur qui... Il me dit chaque année, comme c'est un parcours de Bible sur un an, chaque début d'année, il dit maintenant vous avez 5 minutes pour trouver votre partenaire, le groupe de croissance. Donc ça marche pas qu'avec les personnes avec qui on a une affinité. C'est cette décision de se dire on va grandir ensemble. On se connaît pas, mais on va construire cette amitié. J'ai envie qu'on prenne un temps de prière maintenant. On va fermer nos yeux. Et l'idée c'est de se placer devant Dieu et dire Seigneur, l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose, Seigneur, on a vu ce matin et on le voit dans ta Bible, qui est important à tes yeux. Et Père, je vais te demander tellement pardon au nom de l'Église, de toutes ces fois où on se bride, où on empêche l'amitié dans notre Église, où on empêche l'amitié entre nous, entre frères et sœurs, pour aller plus loin qu'un bonjour ou pour aller plus loin qu'un comment ça allait se passer cette semaine. J'aimerais qu'on prie sur deux choses ce matin. C'est bon les amis. Deux choses ce matin, la première chose, c'est de venir devant Dieu et demander pardon. Pardon pour toutes ces amitiés que tu as empêchées peut-être. Pardon pour peut-être toutes ces amitiés que tu n'as pas développées. Que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, parce que c'est hyper important de développer des amitiés avec les non-chrétiens. Père, je veux te demander vraiment... Là, on prend ce temps et vous pouvez prier hein, dans votre coin, soit à voix haute ou autre. Mais Seigneur. Pardon de ne pas mettre en pratique, Seigneur, les choses que tu nous demandes de vivre. Pardon, Seigneur, de ne pas, Seigneur, mettre à profit, Seigneur, ta parole. Et c'est vrai que c'est dur, mais ta parole appelle hypocrite les personnes qui connaissent la vérité, mais qui ne l'appliquent pas. Et Seigneur, on a été hypocrite, moi le premier. On a été hypocrite devant toi, Seigneur, parce qu'on connaît, on sait que tu nous appelles, Seigneur, à vivre en communauté, à vivre l'amitié, Seigneur, mais on ne le fait pas. Je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces amitiés qui auraient pu naître, mais qui n'ont pas né. Père, je te demande pour mes frères et sœurs, là. J'ai envie, Seigneur, qu'ils puissent vivre cette amitié, cette dimension, cette profondeur de l'amitié et grandir en bataille, grandir dans les combats, Seigneur, grandir face au péché, ne plus se retrouver seuls, Seigneur, dans leurs problèmes, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, l'amitié comme un principe fondateur de ton royaume, Seigneur, parce qu'on grandit, Seigneur, personnellement, on grandit spirituellement, puis on peut grandir dans le service et puis voir des choses se faire dans le sein de l'Église, Seigneur. Seigneur, je rêve, Seigneur, que dans cette Église, Seigneur, on puisse vivre nos meilleures amitiés, Seigneur. Je te demande de donner à mes frères et sœurs, Seigneur, des amis, Seigneur, que ce soit pas juste un temps de culte là où on prie, mais que ce soit une réelle demande, Seigneur, d'être sincère dans notre cœur. Seigneur, j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'un ami, Seigneur. Dites-le à Dieu, j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin que tu puisses m'accompagner de quelqu'un avec qui je vais pouvoir aller plus loin. Et si j'ai des meilleurs amis non chrétiens, Seigneur, donne-moi un ami aussi chrétien ou une amie. Parce que la vie sur terre n'est pas que de servir à l'église, n'est pas que de se retrouver à l'église le dimanche matin. L'amitié peut peut-être démarrer dans l'église, mais elle s'approfondit en dehors de l'église, en dehors du bâtiment. Et on va juste laisser un temps de silence. Vous allez poser deux questions à Dieu. Quelles sont les personnes que j'ai besoin de retirer de mon cercle proche parce qu'il ne croit pas en moi, parce qu'il ne m'encourage pas, parce qu'il ne m'édifie pas, parce que il ne persévère pas avec moi, il ne m'aide pas à me relever. Quelles sont les personnes qui ne servent pas à ma destinée? Et la deuxième question que vous allez poser à Dieu, quelles sont les personnes avec qui tu veux que je développe une amitié? Quelle est la prochaine amitié que tu veux que je développe? Que ce soit une demande sincère dans votre cœur. Essayez d'écouter la voix de Dieu vous parler. Seigneur, j'ai aussi envie de prier contre les causes de ne pas avoir une amitié. Peut-être qu'il y a des personnes dans cette église qui souffrent, qui ont souffert relationnellement dans leur vie, amicalement parlant, qui ont peut-être souffert du rejet, qui ont peut-être souffert de paroles blessantes, qui ont peut-être souffert de choses qui les ont réduits, qui les ont isolés, qui les ont enfermés, et ils portent ce poids de souffrance en eux. Père, j'ai envie de prier maintenant que tu libères, Seigneur, ta libération, Seigneur. Que tu souffles, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, une onction de libération dans cette église, Seigneur. Que le rejet, Seigneur, soit banni. On le bannit au nom de Jésus. Père, Seigneur, je refuse, Seigneur, que les relations d'avant, les paroles qui ont blessé, Seigneur, prennent plus de place. Seigneur, j'ordonne à ce que ces paroles blessantes sortent dans le nom de Jésus. Père, j'appelle une onction d'huile fraîche. Une huile fraîche, Seigneur, sur la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, pour vivre, Seigneur, la libération de ce rejet, Seigneur. Pour toutes les personnes, Seigneur, qui n'osent pas avoir des amis de peur de souffrir, Seigneur. Quoi qu'elles en soient la cause de cette souffrance qu'ils ont vécue, Seigneur, peut-être qu'ils n'ont pas eu ce bagage émotionnel, affectif dans leur vie. Alors là aussi, Seigneur, je te demande de ramener, Seigneur, cette possibilité de dire « Oui, je suis intéressante. Oui, je suis intéressant. » Père, Seigneur, fais ancrer en eux, Seigneur, ce poids, Seigneur, de cette réalité, Seigneur, que si tu t'intéresses à eux, ils sont intéressants pour les autres, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui ont peut-être du mal à parler, qui ont peut-être du mal à engager la conversation, qui ont peut-être du mal à trouver des sujets intéressants. Père, tu es celui qui renouvelle les sujets de conversation. Tu es celui qui renouvelle les conversations, Seigneur. Et on veut être une église où il y a du lien entre les générations, Seigneur. Et je prie que les personnes plus âgées se sentent intéressantes face aux jeunes, que les jeunes trouvent intéressants les personnes plus âgées. Je prie que les personnes entre nous, Seigneur, on puisse vivre cet encouragement, Seigneur, de se dire « Mais j'ai tellement envie de savoir qui tu es. J'ai envie d'apprendre de toi. J'ai envie d'apprendre de toi. » Seigneur, amène cette onction nouvelle, Seigneur, dans les pensées, Seigneur. Libère les pensées, Seigneur, où tu peux raviver cette envie de construire l'amitié, Seigneur. Jésus-Christ, pour ceux, Seigneur, qui sont mal entourés, je te prie, Seigneur, de les aider, de les conseiller, Seigneur, à faire le tri dans leurs amitiés, Seigneur, pour qu'ils puissent trouver des amis qui puissent les porter, qui puissent les aider, qui puissent les édifier, Seigneur. Parce que parfois, peut-être que je vous ai posé la question et que vous n'avez pas eu envie de poser la question à Dieu, Seigneur, c'est qui le prochain ami? Parce que tu souffres encore peut-être de certaines causes. Peut-être que c'est la honte en toi qui est que tu n'as pas envie d'être vu sous un mauvais jour. Mais rappelle-toi que l'amitié est la base, c'est l'amour. Et Seigneur, je prie que là aussi, la réalité de l'amitié prenne un sens qui est nouveau, qui n'est pas de « il va connaître ma souffrance, il va connaître mes problèmes, mais il va m'aider à progresser ». Et il y a tellement de puissance dans ton nom, Seigneur, pour raviver ça. Il y a tellement de puissance dans ton nom pour raviver ça, Seigneur. Père, j'ai envie aussi de briser, Seigneur, les choses, Seigneur, qui sont peut-être de l'ordre du diable, des attaques, des choses qui n'ont pas éclos, pour que tu puisses vraiment ramener la vie. Tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu qui ressuscite les eaux desséchées. Seigneur, ressuscite les amitiés. Ressuscite les amitiés dans cette église. Ressuscite la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, ressuscite les communions fraternelles dans cette église. On a besoin de vivre cette dimension amicale, relationnelle, Seigneur. On veut vivre cette réalité spirituelle que deux valent mieux qu'un, Seigneur. Oui, ça marche dans le couple, mais ça marche aussi en dehors du couple. Parce que ce verset, il n'est pas pour les couples, à la base. Deux valent mieux qu'un, Seigneur. Seigneur, je sais que tu m'as donné quelqu'un pour ne pas tomber, mais pour me relever, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, tu es mon meilleur ami. Oui, Dieu, Jésus, tu es mon meilleur ami. Mais tu m'as donné des meilleurs amis sur terre. Tu m'as donné des frères et sœurs pour pouvoir nous édifier. Et Seigneur, je prie ça, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, que ta puissance puisse couler, Seigneur.